Chapitre 10. Apparition. C'était une petite fille joufflue, de 3 ans tout au plus. Elle entra par la porte restée ouverte, sans le moindre bruit. Elle était nu-tête, un long tablier malpropre lui tombait du menton jusqu'aux pieds, et elle portait dans ses bras une affreuse poupée toute déchiquetée. Elle regarda fixement Oscar d'abord, moi ensuite, et s'avançant près de ma chaise, elle posa sa poupée sur mes genoux, et, montrant du doigt une chaise à mes côtés, elle réclama mes soins en ces termes « Jig voudrait s'asseoir. » Pouvais-je continuer mon attaque contre la société? Il n'y avait, tout bien considéré, qu'à embrasser Jig. « Quel est cet enfant ? » demandai-je à Oscar en asseyant notre petite visiteuse sur une chaise. Oscar se mit à rire aux éclats. C'était la première fois, lui aussi, qu'il voyait cette mystérieuse enfant, et il se demandait quelle pouvait être la signification de ce sobriquet de Jig que s'était donné la petite fille. L'enfant nous regardait de ses grands yeux ombragés par une masse inculte de boucles blondes, tandis que ses petites jambes, étendues horizontalement sur la chaise, nous montraient une petite paire de bottines toutes déchirées et couvertes de poussière. Elle fit un nouvel appel à notre hospitalité. « Jig voudrait boire !» Pendant qu'Oscar courait chercher du lait, j'essayais d'établir l'identité de Jig. Quelque chose, dans les allures de l'enfant, lorsqu'elle était entrée, tenant sa poupée sous son bras, me rappela la lymphatique maîtresse de la maison, se promenant avec son bébé sur un bras et son roman sous l'autre. Je me permis d'examiner le tablier de Jig et je découvris dans un coin le nom de Célina Finch. Nous avions devant nous un des nombreux membres de la famille Finch, membre un peu jeune, à ce qu'il me semblait, pour qu'on le laissât errer seul et nu-tête. Oscar revint avec un bol de lait que l'enfant lui prit des mains et vida lentement jusqu'à la dernière goutte. Puis elle respira bruyamment, me regarda, la lèvre ornée d'une moustache de crème, et m'annonça qu'elle abrégerait sa visite. « Jig voudrait descendre de sa chaise. » J'obtempérai au désir de ma jeune amie. Elle reprit sa poupée et hésita un instant en réfléchissant profondément. Puis elle mit tout à coup sa petite main brûlante dans la mienne et essaya de m'entraîner dehors. « Qu'est-ce que tu veux ? » lui dis-je. Jig me répondit par un mot intraduisible. « L'homme d'Ada, » dit-elle. Je me laissai entraîner, bien embarrassé de me prononcer sur la nature de l'homme d'Ada et de dire s'ils étaient d'un jouet ou une friandise. L'enfant me conduisit jusqu'à la porte d'entrée, où j'aperçus le cheval et la voiture du charretier qui était venu chercher la caisse de plaques d'or et d'argent pour les ramener à Londres. Il s'était avancé sans que nous eussions rien entendu. J'échangeai un regard avec Oscar qui m'avait suivi, et nous eûmes la clé de cet excellent mot composé, inventé par Jig et qui voulait dire un charretier son cheval, tout en omettant la voiture comme un accessoire de peu d'importance. Je compris aussi la politesse qu'avait montré Jig en venant nous informer, après s'être reposé et rafraîchi, d'un fait qui n'avait pas attiré notre attention. Le charretier nous raconta qu'il avait été questionné et examiné par l'enfant, qu'il avait suivi jusqu'à la porte des sables pour les piller. Jig était, à ce qu'il paraît, connu de tout Dymchurch, et le charretier la connaissait fort bien. On l'avait surnommée Gypsy à cause de ses habitudes vagabondes et elle avait raccourci ce sobriquet en celui de Jig. On ne pouvait pas la retenir au presbytère. Il y avait même longtemps qu'on y avait renoncé. Elle finissait toujours par revenir tôt ou tard. Quelquefois, on la ramassait endormie ou un chien de berger la trouvait perdue sous quelques buissons et donnait l'éveil. « Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête de cet enfant !» nous dit le charretier avec une admiration superstitieuse. Elle a une volonté et une résolution incroyables. C'est, et ce n'est pas une enfant, elle n'a que 3 ans, et c'est une énigme que nous ne pouvons pas deviner. Voilà tout ce que je sais sur son compte. Tandis que le charretier parlait, le charpentier et son fils, qui avaient recloué la caisse, vinrent nous rejoindre sur le devant de la maison. Ils suivirent Oscar, rapportèrent bientôt à eux deux la caisse de métaux, qu'un seul homme n'aurait pu porter. Après l'avoir chargé sur la voiture, les deux charpentiers y montèrent, voulant profiter de l'occasion pour aller à Brighton. Le père, fort et robuste gaillard, dit à Oscar en plaisantant que la route était bien déserte et qu'il ne serait pas trop de trois pour conduire un colis d'une aussi grande valeur jusqu'à la gare de Brighton. Oscar prit cette plaisanterie au sérieux. « Croyez-vous, s'écria-t-il, qu'il y ait des voleurs par ici ?»« Bonté divine !» lui répondit le charretier. « Les voleurs couraient le risque de mourir de faim dans ces parages. Il n'y a rien qui vaille la peine d'être volé. » Jix, qui surveillait tous nos mouvements et qui ne laissait passer rien inaperçu, se chargea de donner le signal du départ. Cette singulière enfant fit de sa petite main un geste impérieux à son ami le charretier, en lui criant de toutes ses forces « Hu, dada !» Le charretier la salua avec déférence et un sérieux des plus comiques et s'écria « Très bien, mademoiselle, vous avez raison, le temps vaut de l'argent. » Il fit claquer son fouet et la voiture partit. Il était temps de revenir au presbytère et de rendre la petite vagabonde à ses parents. Je me tournai vers Oscar pour lui dire adieu. « Je voudrais bien aller avec vous au presbytère, » me dit-il. « Sitôt que j'aurais appris là-bas le résultat de notre entrevue de ce matin, vous pourrez y venir. J'ai résolu, dans votre propre intérêt, de tout dire au Finch. Vous n'avez rien à craindre et tout à gagner à me laisser parler librement. Éloignez de votre esprit tous ces soupçons et ces idées qui sont indignes de vous. Demain, nous serons bons voisins. Au bout de la semaine, nous serons bons amis. Pour l'instant, à l'avantage de vous revoir, comme nous disons en France. » Je me retournai pour prendre la main de Jix. L'enfant avait profité de notre conversation pour s'échapper et je ne l'aperçus nulle part. À peine nous étions-nous mis à sa recherche que nous entendîmes sa petite voix derrière la maison. « Allez-vous-en, vilaines gens !» crie l'enfant avec impatience. « Allez-vous-en !» En tournant le coin de la maison, nous vîmes deux hommes de mauvaise mine qui se reposaient. À leurs figures cadavéreuses et grossières et à leurs vêtements sordides, nous reconnûmes le produit le plus bestial du monde civilisé, le voyou de Londres. Ils avaient les mains dans les poches et étaient adossés au mur, comme s'ils eussent été à la porte d'un cabaret. Quant à Jig, elle leur faisait face, campait résolument sur ses deux petites jambes et s'instituait, à un âge aussi tendre, protectrice de la propriété. Elle ordonnait à ses deux coquins de s'en aller. « Que faites-vous là ?» leur demanda Oscar d'une voix rude. Un des hommes allait lui répondre avec insolence lorsque le plus jeune et le plus hideux des deux lui coupa la parole. « Nous avons fait une longue marche, monsieur, » dit-il avec une fausse humilité mêlée d'effronterie, « et nous avons pris la liberté de nous appuyer contre votre mur en admirant la beauté de votre petite fille. » Il montrait Jix qui, tout en le menaçant du poing, lui ordonnait de s'en aller avec une violence croissante. « Si vous voulez vous reposer, il y a une auberge dans le village, » reprit Oscar. « Ma maison n'est pas un cabaret. » Le plus âgé ébaucha un juron. Le second l'arrêta de nouveau. « Tais-toi, » dit-il, « ne vois-tu pas que monsieur nous recommande la buvette de l'auberge ? Allons boire à sa santé. » Il se tourna vers Jix et lui fit un grand salut. « Au revoir, mademoiselle, » dit-il, « vous avez justement la beauté que j'admire. Je vous prie d'être assez bonne pour ne promettre votre main à personne jusqu'à mon retour. » Cette plaisanterie fut goûtée par son grossier compagnon qui se mit à rire aux éclats. Puis les deux bandits partirent bras dessous dans la direction du village. La petite Jix, si comique jusque-là, prit, en les voyant s'en aller, une mine terriblement tragique. L'enfant fut blessé au vif, comme si elle avait compris l'insulte que venaient de lui faire ces deux hommes. Je n'ai jamais vu de petite fille de cet âge se mettre dans une aussi grande colère. Elle saisit une pierre et la leur lança avant que j'eusse pu l'en empêcher. Puis elle se mit à pousser des cris et à piétiner le gazon jusqu'à ce que sa figure devint noire. Elle se jeta ensuite par terre et se roula sur l'herbe dans un accès de rage. Oscar ne parvint à la calmer qu'en lui promettant, un peu à la légère, d'envoyer chercher la police et de faire fouetter d'importance ces deux hommes pour avoir osé lui rire au nez. Elle rappela souvent dans la suite cette promesse à Oscar. Enfin, elle se releva et sécha ses larmes en se fourrant les deux poings dans les yeux. « Prenez garde !» dit-elle d'un air méfiant à Oscar, tandis que l'émotion soulevait sa poitrine sous son tablier sale. « Vous avez promis de les faire fouetter et Jake sera là. » Je ne voulus pas faire part de mes soupçons à Oscar, mais en m'en allant, je me sentis une secrète inquiétude causée par la présence de ces deux individus dans le voisinage des sables. Ils avaient peut-être bien pu rôder longtemps autour de la maison avant que l'enfant les découvrît. Ils avaient peut-être entendu par la fenêtre ce que je disais à Oscar au sujet des plaques d'or et d'argent, et ils avaient été à même de voir hisser sur la voiture la lourde caisse qui les contenait. Ce n'était pas pour la susdite caisse que je craignais. Les trois hommes qui l'accompagnaient étaient de taille à la défendre. C'était pour l'avenir. Oscar, demeurant seul dans un endroit isolé et à plus d'un demi-mille du village, son goût pour la ciselure pouvait, s'il avait ses avantages, avoir aussi ses inconvénients s'il venait à être connu au-delà de Dymchurch. Puis, passant d'un soupçon à un autre, je me demandais si ces hommes s'étaient égarés dans cette localité ignorée ou s'ils étaient venus au sable de propos délibérés. En proie à ces soupçons, je rentrai au presbytère avec ma petite protégée. Lorsque je rencontrai la vieille Zilla dans le jardin, je lui demandai « Voit-on souvent des étrangers à Dymchurch ?»« Des étrangers ?» répéta la vieille femme. « Exceptez-vous, madame, d'un bout de l'année à l'autre, nous ne voyons pas d'étrangers ici. » Je résolus de faire part de mes inquiétudes à Oscar avant que ces métaux précieux lui fussent réexpédiés.